With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 511 du podcast Touch en Actuel. Mathé, très heureux de vous retrouver. On entame notre débrief de la troisième semaine de NFL 2022. Lucas Vola est à mes côtés. Bonjour Lucas.
Oui, encore moi. Salut Alain, salut tout le monde.
L'homme du lundi. Les rôles sont bien répartis pour l'instant. C'est ça. On a Lucas le lundi, Raphaël le mardi, Greg généralement le mardi aussi, et puis Victor le mercredi. Ça, c'est les enregistrements. En fait, ouais. Là, on vient de se griller, c'est les enregistrements.
C'est
donc,
ça.
Ce qu'on aurait dû dire, c'est évidemment le mardi, le mercredi et le jeudi. On enregistre la veille au soir, voilà. C'est pas un grand secret, vous vous doutez bien qu'on les enregistre pas à 3h du mat pour mise en ligne à 4h. Hein. Je pense que si vous avez vu que c'est mis en ligne à 4h sur votre appli de podcast, c'est parce qu'on l'a enregistré un peu avant. Tu crois que non, tu serais prêt, on se lève à 2h, tu vois, on les...
Écoute, je suis beaucoup plus productif le soir que le matin, donc franchement, si vous voulez des trucs intéressants, déjà que le soir, c'est pas forcément... Si vous voulez des trucs intéressants, vaut mieux pas me faire lever à 3 ou 4h du matin, je vous le dis.
Ah ouais, ce serait un peu violent quand même. Le débrief des trois affiches marquantes de la semaine, donc comme tous les mardis matins dans vos oreilles, les Bills qui tombent face à une énorme défense, les Packers qui gagnent grâce à une énorme défense, et les Chiefs qui tombent face à une défense. C'est le programme avec des favoris en difficulté, donc dans cette deuxième semaine de NFL. Dans cette troisième semaine, pardon, de NFL, on l'a dit, beaucoup de défenses au programme. On débute avec le Bills Dolphins, 21-19 pour Miami. Et les Dolphins, qui sont donc à 3 victoires et 0 défaites, en tête de la conférence AFC, parce qu'on va beaucoup parler de favoris, on l'a dit. Et ils sont donc devant les Bills et les Chiefs, dont on va parler un petit peu plus tard. Ça n'a pas manqué d'émotion, Lucas, clairement, ce match, au bout du suspense, au bout de l'énergie, au bout de l'émotion, avec des très belles images d'après-match d'ailleurs. Fin de match complètement folle. Touchdown Dolphins à 10 minutes de la fin pour passer devant. Échec des Bills sur 4e à 2 yards de la end zone à 1 minute 49 de la fin. Bon, on se dit, ça sent quand même la fin. Punt raté des Dolphins avec un punt directement dans les fesses d'un joueur des Dolphins qui donne un safety, action assez incroyable. Donc 2 points pour les Bills et ballon rendu, qui se retrouve donc à 2 points de retard, 1 minute 33 à jouer. Et là, les Bills sont trop courts à la fois au niveau du placement et au niveau du temps pour se mettre en place pour tenter un très très long field goal. Et fin du match, comme ça, alors presque un peu en queue de poisson pour ce genre de match, ce genre de fin où ça court après le chrono et puis ils n'ont pas le temps de se mettre en place. Est-ce que le fait de ce match, Lucas, c'est la performance défensive de Miami ?
Oui, clairement oui, parce que on en parlera peut-être après. Il y a une performance offensive, mais qui est un petit peu tempérée par les absences défensives de Buffalo peut-être. Mais surtout, voilà, c'est vrai que ce qu'on retient clairement, c'est la défense de Miami qui a vraiment alors maîtriser c'est un grand mot, mais déjà qui a limité les Bills à 19 points, ce qui est déjà un bel exploit, alors qu'il prend beaucoup de yards, certes, je crois que Josh Allen lance pour 400 yards, ils sont pas loin des 500 yards en cumulé sur le match, les Bills, mais tout de même, Miami a réussi à limiter, a réussi à mettre beaucoup de pression sur Josh Allen avec pas mal de blitz, ce qui a permis de le mettre un petit peu en difficulté. Et puis il y a c'est comme tu l'as dit, c'est stop défensif. Il y a ce stop pas très loin de la fin du match, à quelques yards de la end zone, qui est très important. Mine de rien, certes, c'est un petit peu une mauvaise gestion du temps par Josh Allen et les Bills sur le dernier drive, mais tout de même, ça tient du côté de Miami. En deuxième mi-temps, tout de même, ils arrivent à les limiter à un field goal et un field goal manqué. Mmh. Donc, il y a une très belle deuxième mi-temps. Il y a une belle performance tout de même défensive. Il y a un jeu au sol qui a été annihilé quasi totalement du côté de Miami. Donc oui, c'est vrai que pour répondre à ta question, ce que je retiens, ce qui ressort, je pense, de ce match, c'est la défense des joueurs de Floride.
Ce qui est assez dingue, c'est que si je te montre juste la ligne de stats, tu te dis, mais comment Buffalo perd ce match? Parce que ils ont eu le ballon 40 minutes, ils ont gagné 497 yards, ils sont à 11 sur 18 en troisième tentative, 2 sur 3 sur les quatrièmes tentatives, ils ont 90 actions offensives contre 39 pour Miami. 90 actions offensives et seulement 19 points. Donc c'est vrai que c'est assez dingue, et en fait ils ont calé dans les moments chauds, ils ont calé parfois dans les derniers yards, Miami a sorti des actions qu'il fallait. C'est vraiment tout à leur honneur, hein, mais tu vois, je sais pas si on rejoue ce match 10 fois, si ça tombe plus de 5 fois, plus de la majorité du temps en faveur de Miami, tu vois, en tout cas dans ces conditions-là, quoi. C'est ce qui est assez dingue. Encore une fois, hein, ils l'ont fait, donc je leur retire rien. Il fallait vraiment le faire, quoi, parce que les conditions étaient dantesques pour aller arracher ça, quoi.
Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait de rejouer ce match 10 fois, mais bon, je vais enfoncer une porte ouverte en disant que ce match, il est joué qu'une fois, et que une saison de NFL, on le répète assez souvent pour que ça rentre dans la tête de tout le monde, c'est tellement court, les matchs sont tellement importants, qu'une victoire comme ça, c'est important face à un adversaire direct, déjà dans la conférence, dans la division aussi, donc c'est tellement important que certes, ça a été difficile. Certes, c'est peut-être Buffalo qui le perd aussi un petit peu plutôt que Miami qui le gagne. Mais à la fin, c'est Miami qui a 3-0. C'est Buffalo qui a déjà un match de retard sur Miami, qui va falloir rattraper. C'est de la confiance qui est donnée à cette défense, qui est donnée à cette attaque aussi. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est peut-être un enchaînement de réussite et d'actions qui basculent quand il faut dans le bon sens. Mais en même temps, c'est aussi comme ça que ça se gagne un match.
Ils sont allés chercher, hein, c'est ce que je dis. Il y a vraiment pas de. Encore une fois, pour moi, je disais le coup des 10 fois, c'est vraiment pour dire justement leur mérite d'être allé chercher ce match-là. Miami a blitzé dans tous les sens, ils ont tenu dans les moments chauds. 20 pressions sur le quarterback, 10 quarterback hits, 4 sacks sur Josh Allen, les defensive backs ont tenu aussi. Et on le disait, il y a des erreurs fatales de Buffalo. Il y a un fumble pour Josh Allen en début de match qui offre un touchdown quasiment à l'attaque de Miami, parce que c'est très très proche de la zone d'en but. Il y a Matt Milano qui lâche une interception toute faite, il y a Gabe Davis qui lâche un ballon de touchdown, et c'est là où moi je voulais en venir pour Buffalo. Ils sont pas décisifs sur le dernier drive aussi, quand ils peuvent gagner avec un field goal, on le disait. Je m'inquiète pas pour Buffalo, en tout cas sur ce match. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par Miami. C'est que il y a des soirs comme ça en NFL où visiblement, voilà, tu peux pas. Ils avaient des tonnes de blessés en défense avant le match. Il y a rien qui va dans leur sens. Mais du coup, ça m'inquiète pas. Tu vois, ça retire pas ce qu'on a vu les deux premières semaines.
Alors, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas inquiétant. Buffalo est toujours, à mon avis, même favori de cette AFC. Il y a une équipe qui est quand même incroyable. Maintenant, il y a deux petites choses quand même que ça révèle. Le jeu au sol qui est toujours inexistant. Josh Allen lance plus de 60 fois, je crois, dans ce match-là.
63 fois.
Alors que Buffalo est pas loin derrière. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une équipe de Buffalo qui doit revenir avec 2 touchdowns de retard et qu'il faut absolument. Mais Buffalo est toujours et on le voit à la fin d'ailleurs, est toujours un petit peu sur les talons de Miami. Donc le jeu au sol ce serait pas incohérent de jouer au sol. Et pourtant il est quasi inexistant. C'est toujours Josh Allen qui est meilleur coureur. Ça gagne même pas 100 yards ou très peu. En tout cas à peine si on enlève encore plus les yards au sol de Allen. Qui comptent certes, mais qui sont toujours un petit peu difficiles à compter dans le jeu au sol pur. Donc ça révèle ça pour moi. Et ça révèle aussi quelque chose un petit peu plus impalpable. Alors là, ça va être difficile, mais c'est que Buffalo, pour moi, la dernière étape pour en faire vraiment l'équipe qui marchera sur tout le monde, c'est gagner ce genre de match-là. Parce que quand Buffalo, ça marche, ils sont quasiment inarrêtables. On l'a vu depuis deux matchs. On l'a vu l'année dernière aussi. Mais il faut être capable de gagner quand c'est un petit peu dur, quand tout ne va pas forcément parfaitement, quand des fois, par exemple, Josh Allen est un petit peu moins bien, ce qui arrive rarement. Mais il faut être capable d'aller gagner ce match-là avec justement des actions qui vont faire changer le match. Ce que faisaient par exemple très bien les Patriots pendant un moment, à l'époque où ils dominaient, c'est que même quand c'était pas incroyable, ça réussissait à gagner. Et c'est parce que un match comme ça peut arriver en play-off, ça peut arriver face à Miami de manière totalement similaire. Et il faut être capable de le gagner. Pour l'instant, Buffalo, il manque cette toute petite marche, elle est infime, et je pense même que ça pourrait arriver d'ici l'année, mais il faut faire attention à ça.
Moi, je te rejoins sur le problème du jeu au sol, tu vois, je comptais presque en faire une conclusion de cet épisode, mais je vais le dire dès maintenant. Le problème de ne pas avoir un jeu au sol consistant, c'est un truc qui est commun aux Bills, aux Buccaneers et aux Chiefs, qui sont les trois favoris dont on parle dans cette émission aujourd'hui, et c'est trois équipes qui ne peuvent pas, en effet, se reposer vraiment sur peut-être plus Tampa de temps en temps, mais qui ne peuvent pas se reposer sur un vrai jeu au sol qui accompagne l'attaque et qui doivent tout miser sur le bras de leur quarterback. Et il y a des jours où il y a un peu moins de réussite, où il y a des jours où il y a des choses qui ne vont pas dans leur sens, où ils ne pourront pas se reposer là-dessus. Et pour moi, c'est toujours un peu leur talon d'Achille, même si évidemment, il n'y a aucune équipe NFL qui est parfaite. Si tu choisis, il vaut mieux avoir Josh Allen ou Patrick Mahomes qu'un jeu au sol. Suppose qu'ils iront un peu plus loin que les Bears cette année, tu vois. Mais voilà, ça reste leur petit truc. Du côté de Miami, ils ont donc saisi leur chance. Deux touchdowns en première mi-temps, un drive où ils remontent 72 yards en 6 actions pour prendre l'avantage dans le dernier quart. Il y a une longue passe pour Jalen Waddle, Chase Edmonds se termine. Mais si tu regardes, encore une fois, je reviens au stade, il y a 212 yards en attaque seulement, mais en 19 minutes de possession. 21 points en 19 minutes, ce qui est un bon rendement. Est-ce qu'on se concentre sur l'efficacité? Il n'y a aucun ballon perdu, il y a 102 yards pour Jalen Waddle, il y a quelques belles passes, finalement c'est pas mal sur 19 minutes.
Oui, c'est ça. Moi, c'est exactement ce que je me suis noté. Je me suis noté que l'attaque a pas fait grand chose, mais en même temps, elle avait pas besoin de faire grand chose. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a marqué les touchdowns quand il fallait. Tagovailoa a été bon quand il l'a fallu. Il a une fiche statistique de 13 sur 18. Il manque pas beaucoup de passes. Il s'est un petit peu plus équilibré entre la passe et le sol. Et en effet, il y a pas beaucoup de temps de possession. Donc, difficile de marquer plus de points que ce qu'on peut faire en 19 minutes, comme tu l'as dit, ou 20 minutes à peine. Donc, moi, cette attaque là, alors certes il y avait beaucoup d'absences du côté de Buffalo, c'est pour ça qu'on peut être un peu moins tiré d'enseignement de ce côté du terrain, mais en même temps on a vu que l'attaque pouvait prendre feu la semaine dernière et la semaine d'avant, donc c'est pas comme si elle nous avait rien montré, là elle avait pas eu besoin de nous le montrer, on passe à la semaine prochaine, on reste invaincu pour Miami, et puis commencer aussi peut-être à parler parce qu'on le cite pas, on l'a pas cité, mais le coach, parce que le coach c'est sa première saison, il arrive, il est à 3-0, c'est pas forcément toujours évident pour un nouveau coach, et on le voit dans d'autres équipes, d'arriver et de mettre en place une identité, quelque chose qui fonctionne face à des équipes quand même. Miami, ils sont à 3-0, ils n'ont pas affronté pim pam poum. Hein. Alors c'était les Patriots au début, mais c'est jamais trop évident. C'était les Ravens, c'était Buffalo. Donc franchement, un chapeau à lui pour l'instant. Il faudrait que ça dure, mais c'est bien parti.
Je commence à me laisser convaincre doucement par Miami. J'en ferai pas encore un favori, ils sont en haut du classement, mais tu vois, même pour Tagovailoa, j'aime bien la passe de touchdown pour River Crackraft, qui a quand même un patronyme très drôle. Assez rigolo.
Dès que j'ai vu ça, j'ai pensé jeu de mots Power Ranking. Je l'ai pas encore, mais ça pourrait.
Ouais. Non, River Crackraft, c'est pas mal. Il y a un truc peut-être avec Robert Kraft aussi, tu vois, à trouver. Je sais pas. Va falloir qu'on lance des recherches. On va brancher la cellule jeu de mots du Slack de la rédaction là-dessus. Mais la passe est très belle, donc pourquoi pas. Ça prend forme, tu le dis. Le coaching est là. Tagovailoa prend confiance aussi, il y a des bonnes choses, ses receveurs sont là, donc pourquoi pas. Miami continue de monter en puissance, on l'a dit, Buffalo ça reste quand même très très solide, c'est pas encore terminé, mais voilà, très beau match en tout cas entre deux.
Ce qui est bien, oui. Je te coupe, c'est qu'il y en aura un deuxième puisqu'ils sont dans la même division, donc il va y avoir un match retour à minima.
C'est vrai, mais une revanche en plus qui devrait se passer dans un bel esprit, parce que je trouve que c'était une des belles images du week-end, c'était Tagovailoa et Josh Allen après le coup de sifflet final, je ne sais pas si tu l'as aperçu, où en fait Allen a un peu la tête posée sur l'épaule quoi, de l'autre, et tu vois, je sais pas, j'ai trouvé ça assez sympa, parce que tu sens l'épuisement, quoi. Ils étaient vraiment tous à bout, et la chaleur de Miami quand même a l'air très difficile pour certaines équipes qui se déplacent là-bas, surtout quand t'es à Buffalo, je pense que t'es pas habitué à ça au mois de septembre.
Apparemment, ils ont essayé pendant au moins 3 semaines de s'entraîner sous de fortes chaleurs à l'intérieur, mais c'est vrai qu'on peut le faire qu'à l'intérieur. Après, à l'extérieur, c'est compliqué à Buffalo.
Ils avaient l'air complètement rincés hein, à la fin du match. Buccaneers 12, Packers 14. Là aussi, c'était en Floride. Deux touchdowns en première mi-temps et puis plus rien pour les Packers. Mais leur grosse défense a empêché les Buccaneers de revenir. Tampa a manqué une conversion à deux points à 14 secondes de la fin. Ça leur aurait donné l'égalisation. Est-ce que c'est significatif la performance des Packers quand tu vois comment les Buccaneers étaient dépeuplés ?
Tu parles de performance défensive, je suppose, là, parce que...
Oui, la perf défensive. Je rappelle, Mike Evans, Chris Godwin, Julio Jones étaient absents. Donc, les receveurs de Tom Brady, c'était Breshad Perriman, Russell Gage, Cameron Brate, Jalen Darden, Cole Beasley. Et le tackle, left tackle, Donovan Smith, était absent aussi.
Alors, j'ai envie de te dire que non. Ce n'est pas forcément significatif. Mais pour le coup, si on prend ce qu'on disait juste avant sur Buffalo, Green Bay, pour moi, est une équipe, alors pas forcément en playoff peut-être, mais qui arrive à trouver un moyen de gagner un match alors que... c'est pas forcément incroyable, tu l'as dit, il y a deux touchdowns et puis après il y a pas grand-chose. L'attaque patine un petit peu face à une grosse défense certes. La défense bon certes, c'est pas forcément incroyable en face mais réussit à tenir. Ils cèdent à la fin mais ils arrivent à tenir sur cette dernière conversion à deux points. Voilà, ils arrivent à gagner ce match-là un petit peu à l'expérience, un petit peu voilà, à l'arracher à l'extérieur face à une équipe quand même qui va jouer le haut du tableau. Donc c'est pas forcément significatif mais ils ont trouver des ressources mentales là où on parle depuis un moment des Packers qui sont en déclin, notamment offensif. Bon, faudra voir. Il reste sur un match et demi de bon, les Packers sur trois du coup, puisque le premier était moyen, le deuxième était bon. Celui-là est entre les deux. Donc, difficile de savoir exactement, mais j'ai bien aimé le fait d'aller chercher ce match-là et de revenir avec une victoire.
Sans en faire un truc immensément significatif, je trouve ça quand même pas mal de prendre moins de 300 yards face à une attaque menée par Tom Brady. C'est jamais totalement neutre non plus, parce que Brady se débrouille pas si mal avec ce qu'il a. Il a 31 sur 42 pour 271 yards et un touchdown, ça aurait pu être bien pire. Mais c'est Tom Brady. Ça aurait été un autre joueur avec ces receveurs-là, ça aurait pu être bien pire. Donc quand même quelques points pour moi du côté des Packers. Cette défense, elle est très très solide depuis le début de la saison. Je suis en train de vérifier, je voulais pas dire de bêtises. Oui, ils prennent quand même 23 points. Bon, le premier match contre les Vikings, c'est vraiment le faux départ, mais ils font ça tous les ans. Mais voilà, derrière, ils mettent un 27-10 aux Bears. Là, ils en prennent que 12 contre Tampa. Donc, pour moi, je trouve ça quand même intéressant au niveau de la défense de Green Bay. Et après, si on rapporte à l'attaque, il y a un très bon début de match, clairement. Rodgers est affûté, ça distribue, etc. Derrière, ça cale complètement. C'est vrai que Rodgers débute avec un 12 sur 13 à la passe. Voilà, j'avais la stat. Et ensuite, il y a 9 drives où il ne marque pas de points. Donc, c'est vraiment un drôle de match en deux temps. J'ai du mal à vraiment lire quelque chose là-dedans parce qu'il y a un fumble d'Aaron Jones devant l'end zone qui aurait pu tuer le match et qui arrive plus tard. Donc, ça aurait relevé un peu. Tu le disais, la défense de Tampa, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en ce moment. Donc voilà, mais est-ce qu'ils ne se sont pas assez ajustés ou est-ce que vraiment la défense de Tampa était trop forte ?
Je pense que c'est l'inverse, c'est la défense de Tampa qui s'est bien ajustée. Mmh. Il y avait un énorme duel Todd Bowles-Aaron Rodgers, on en a parlé pendant un moment, parce que la dernière fois qu'Aaron Rodgers avait affronté Todd Bowles, ça avait été la débandade pour lui, je crois que c'était en finale de conférence, pas l'année dernière mais en 2020. Il avait été beaucoup blitzé, Todd Bowles lui avait envoyé beaucoup de signaux comme il a l'habitude de faire, et du coup c'était un petit peu, Rodgers lui avait dit j'aime bien avoir ce genre de jeu d'échec un petit peu avec le coordinateur défensif qui est maintenant le head coach, mais vous imaginez qu'il a toujours la main sur la défense. Et en effet, les deux premiers drives, en tout cas le début de match, on se dit ça y est, Rodgers il a trouvé la faille dans la défense Bowles, et c'est le head coach qui s'adapte, qui essaye de changer un petit peu ses schémas et qui du coup met un peu de difficultés à Rodgers. Donc ils sont bien adaptés. Je pense que voilà, c'est très difficile pour une attaque d'être très constante et consistante face à la défense des Buccaneers. Ils ont réussi à trouver le moment où elle était un petit peu en difficulté, ils marquent 14 points, il faut tenir derrière, pas beaucoup d'équipes arriveront à le faire, mais les Packers l'ont fait, donc c'était en tout cas sympa à regarder.
La bonne nouvelle, c'est Romeo Doux qui a 8 réceptions pour 73 yards et un touchdown pour Green Bay. On avait dit la semaine dernière, s'ils arrivent à mettre le jeu au sol en marche pour permettre à leurs receveurs de grandir un peu plus tranquillement, bon là il n'y avait pas le jeu au sol, qui a été très très bien stoppé encore par Tampa, mais là encore c'est pas une énorme surprise, mais au moins il y a de l'espoir, il y a David Bakhtiari qui est revenu, qui n'a pas joué tout le match. J'ai l'impression quand même que de toute façon, moi je suis inquiet pour aucune de ces deux équipes parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le produit fini en fait devant nous.
Ouais, c'est ça. Et alors d'autant plus pour les Packers parce que en effet, comme je l'ai dit, le premier match c'était un peu un faux départ, ils le font presque tous les ans. L'année dernière c'était face aux Saints. La semaine dernière c'est face aux Bears. On se dit que c'est pas forcément l'adversaire idoine pour voir un peu ce que cette équipe vaut. Là, ça gagne contre une grosse équipe, mais en même temps ça impressionne pas non plus. Donc je pense que c'est des équipes qui savent que c'est pas forcément à ce moment de l'année qu'il faut être au top. Alors s'il pouvait l'être, il le serait, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que je dis pas, mais en tout cas c'est des équipes qui vont monter en puissance et les bases sont là d'un côté comme de l'autre, donc comme tu dis, c'est pas forcément inquiétant. Maintenant il faut que ça se mette en place tranquillement.
Clairement. Colts 20, Chiefs 17. Est-ce que c'est simpliste de dire que les équipes spéciales des Chiefs ont perdu ce match tout seuls comme des grands?
C'est simpliste, c'est pas forcément faux. On parlait d'équipe qui a tourné dans le bon sens tout à l'heure du côté de Miami. C'est un peu le cas aussi du côté d'Indianapolis. Ou alors, à l'inverse, il y a tout qui a tourné dans le mauvais sens pour les Chiefs. Mais en même temps, ça, c'est un peu de leur faute aussi. Comme tu l'as dit, il y a des équipes spéciales. Il y a cette anti-sportive, un sportsman-like conduct qui donne une pénalité sur un drive qui devait s'arrêter quasiment du côté des Colts et qui, en fait, lui permet de continuer et d'aller passer devant. Donc, du coup, les Chiefs, j'ai l'impression qu'ils l'ont perdu un peu tout seul, notamment via les équipes spéciales. Et aussi la ligne offensive j'ai l'impression, je sais pas si tu partages ça, mais qu'on retrouve un petit peu, en tout cas dans ce match-là, on a retrouvé un petit peu l'équipe des Chiefs de Patrick Mahomes de il y a un ou deux ans, voire deux ou trois ans, qui était très bon, mais qui avait un problème de ligne offensive et qui est toujours mis en difficulté, dans un inconfort, obligé de courir à droite à gauche. Alors il s'en sort, mais sur la durée d'un match, ça c'est compliqué.
Oui. Même si ça s'était stabilisé l'an dernier, donc on peut toujours plaider le cas isolé. Tu vois, c'était un match, ils avaient reconstruit. Donc, je sais pas encore. C'est pas encore significatif totalement pour moi. Après, des fois, je trouve que c'est un peu symptomatique parce que Mahomes c'est aussi un quarterback qui bouge un peu et qui aime bien sortir de sa poche, etc. Je sais pas. Hein, peut-être que là, je me perds en conjecture, mais. Parce que ça me fait penser à Vance dans une autre mesure, mais à Russell Wilson ou à des joueurs comme ça, tu sais, qui ont du mal à se poser en fait dans la poche et qui ont du mal à bonifier leur ligne.
Un peu frénétique, ouais, un peu frénétique. C'est après, ça. Je suis d'accord avec toi, la ligne, et notamment sur les deux premiers matchs, avait quand même montré qu'elle est sur du bon. C'est une bonne ligne, c'est peut-être un cas isolé, mais c'est vrai que ça m'a marqué là, et je suis d'accord avec toi, c'est que Mahomes, si sur les premiers drives, il sent qu'il a un peu de pression et il commence à peu importe ce qui se passe, un petit peu courir. Alors après, c'est peut-être l'appel des jeux aussi, mais on sent que tout de même, c'est des fois des courses qui sont pas forcément dans le script, qui fait et qui s'en sort parfois relativement très bien parce qu'il est très bon, il a un talent incroyable. Mais des fois, c'est vrai ça mériterait d'un petit peu d'être un peu plus calme.
En fait, ce que j'essaie de dire de manière très maladroite depuis tout à l'heure, c'est que l'ancienne génération de quarterbacks type Drew Brees, Peyton Manning, Tom Brady, pour eux, c'était pas une option de courir. Donc, fallait faire confiance à la ligne, fallait créer une alchimie et apprendre à se débarrasser très vite du ballon. Donc, avoir un feeling de la poche, avoir un feeling de la pression, etc. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que ça se retourne un peu contre eux. Et on le voit avec les Wilson, par exemple, qui même maintenant à Denver n'arrivent pas à trouver de rythme, etc. Ces mecs-là, en fait, ont cet avantage de leurs jambes où dès qu'il y a de la pression, ils peuvent bouger. Et donc, des fois, t'as l'impression que ça se retourne contre eux au sens où ils prennent pas le temps de faire confiance à leur ligne, qui du coup, elle prend pas confiance non plus, et ainsi de suite. Et ça crée des lignes comme ça déséquilibrées qui ont du mal à trouver un certain rythme, une certaine consistance. Voilà. Je sais pas si j'extrapole sur ce sujet-là, mais je sais pas, ce sera peut-être un truc à surveiller parce que j'ai l'impression qu'on a moins, tu vois, en ce moment de lignes dont on dit ça y est, lui il est très bien protégé, c'est régulier, etc. Tu vois, comme on le disait souvent avec des Manning et des Brady dans leur prime où on disait voilà, ils sont bien protégés et puis ils se débarrassent vite du ballon et puis bam bam, voilà, tu vois. Là, j'ai l'impression que ça revient souvent le ah, mais il prend beaucoup de sacs et puis il y a beaucoup de sacs pour lui, tu vois, avec Joe Burrow par exemple.
Oui, oui, oui. Non, c'est sûr. Après, par exemple, on voit un joueur comme Lamar Jackson, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus à trouver cet équilibre-là. de courir quand il faut parce que c'est des jeux appelés, courir quand il faut se sortir d'un jeu ou d'une ligne, et puis par contre rester quand même calme dans une poche parce que, et en fait il faudrait essayer de changer le mindset et se dire bon, je reste dans la poche parce que si jamais ça part mal je pourrais partir, donc restons dans la poche, restons calme et pas il faut que je parte parce que si ça part mal je suis dans l'embarras. Mais c'est vrai que c'est ça dépend, je pense, que de beaucoup aussi de l'état d'esprit du quarterback et même dans le match, parce que si le quarterback il sent que toutes les deux minutes, même des choses qu'on voit pas forcément, mais toutes les deux minutes quand il lance un ballon il a un défenseur dans la tête, il va plus avoir tendance à regarder le défenseur d'abord et courir avant de lancer.
Après on en revient à ce que tu dis et ça revient à la ligne aussi, hein. Absence complète de jeu au sol, comme les Bills, ça donne pas d'alternative. 58 yards sur ce match, 2,5 yards par course, t'as 35 passes pour 23 courses dans un match où t'es devant une partie du match, tu vois, il n'y a pas d'écart qui justifie que tu passes ton temps à lancer, donc t'as pas d'alternative. Je reviens juste sur les équipes spéciales, je l'avais pas précisé si je posais la question, c'est parce qu'il y a un punt relâché qui met les Colts en position pour un touchdown facile, il y a un extra point manqué, il y a un field goal raté et il y a une feinte de field goal ratée.
Oui.
Donc ça fait énormément de points qui se sont envolés. Il y a le compte si ça repassait devant, si tout passait. Mais donc ça, c'était un des faits de jeu. Et après, ce que je disais sur le jeu au sol, ils n'ont pas d'alternative. Et il y a un autre truc, tu vois, en plus de la ligne pour Mahomes. Pour moi, je trouve que c'est un de ces matchs où on sent l'absence de Tyreek Hill. Juju Smith-Schuster est ciblé 8 fois. Il en prend 5 pour 89 yards. Mais je trouve que, un, il manque l'explosivité qu'apportait un Tyreek Hill. Et deux, ça me semble pas naturel encore. Alors, est-ce que ça va le devenir? Mais j'ai pas l'impression qu'il se trouve très naturellement. C'est d'ailleurs sur... je crois que c'est Schuster hein, qui est ciblé sur la dernière interception. Tu vois, il manque les automatismes clairement qu'il y avait avec un Tyreek Hill. Et Kelce me semble être vraiment la seule option fiable haut de gamme, entre guillemets.
Ouais, et puis en plus, tu as cité les statistiques de Juju Smith-Schuster. Il y a une réception pour 53 yards, je crois. Donc, alors c'est, oui, c'est toujours un peu... Ça, certes, cette réception, elle existe. Il ne faudrait pas l'enlever. Mais quand on l'enlève quand même, ça réduit un peu au moins la moyenne. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'était toujours ce qu'on s'était dit. C'était est-ce que qui a le plus de valeur entre Kelce et Hill? Et en fait, c'était surtout le fait d'avoir les deux en même temps qui donnait de la valeur. Parce que difficile d'envoyer deux joueurs sur les deux en même temps. Donc, il fallait choisir son poison, comme on dit souvent en anglais, et du coup, bah, c'était l'autre qui faisait mal. Là, c'est vrai que ça cible un petit peu plus Kelce, qui est très bon, donc qui arrive à s'en sortir tout de même, et notamment sur le touchdown, si je ne me trompe pas. Mais derrière, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, on peut se permettre d'un petit peu plus laisser les autres, et en effet, Juju Smith-Schuster, qui en plus n'est pas forcément dans le même profil qu'un Tyreek Hill, donc c'est un peu plus compliqué, et c'est vrai que dans des matchs comme ça, alors le potentiel offensif est là pour Kansas City, mais dans les matchs où c'est un peu compliqué, Tyreek Hill faisait du bien pour sortir une action d'éclat ou deux, un touchdown qui sort un peu de nulle part, fait un peu par lui-même et qui permet de remettre l'équipe dans le bon sens.
Les Colts équilibrent leur bilan. Une victoire, une défaite, un nul. J'ai l'impression quand même que c'est un trompe-l'œil. On disait que les Chiefs se sont un peu tirés une balle dans le pied. Il y a un drive de 16 actions pour 76 yards qui leur amène le touchdown de la victoire à 24 secondes de la fin. Mais t'as aussi un Matt Ryan qui prend 5 sacks, la ligne en difficulté, il y a encore 2 fumbles pour lui, dont un qui perd, il en est à 7 fumbles en 3 matchs.
Ouais, et puis on parlait des quarterbacks qui prennent des sacks, lui c'est vrai que notamment un fumble où il a le ballon vraiment loin de son corps, il est en train de courir, c'est des situations où on sait que les joueurs arrivent derrière, sur le côté, enfin, il faut... et pourtant c'est pas un joueur inexpérimenté, c'est un joueur qui le sait, c'est assez surprenant.
On pensait pas dire ça, est-ce que les problèmes offensifs se résument aussi à la souffrance de la ligne offensive?
Oui. Alors après, il y a eu un petit peu de mieux avec le retour de Pittman quand même. Quand on voit Pittman qui revient, c'est vrai que ça apporte une cible, ça fait un peu d'espace pour les autres. Donc, mais oui, cette ligne offensive, quand on voit l'année dernière, rappelons-nous quand même que le meilleur joueur de cette équipe, c'était quand même censé être Jonathan Taylor. L'année dernière, il fait une saison incroyable. C'est le meilleur coureur de la ligue avec Derrick Henry qui est out. Cette année... on le voit pas beaucoup, Jonathan Taylor, là il a 21 courses pour 71 yards, ça fait une moyenne de 3,4 yards par course, c'est compliqué pour lui, et pourtant je pense que c'est pas un manque de talent, ou je sais pas. Alors on le sait, les running backs ils ont des carrières un peu faites de haut et de bas, mais là c'est compliqué, quand lui est pas bon parce que la ligne est pas forcément bonne, ça fait une attaque poussive. Ouais.
D'autant que pour moi là, tu vois, pour moi c'est pas hyper... révélateur de ce qu'est cette équipe, c'est pas un grand signe d'espoir d'avoir fait tomber les Chiefs au sens où ils ont tout pour eux dans ce match. Il y a une équipe qui s'aborde, grosso modo, avec les Chiefs. Ils ont des rookies qui performent. Alors, Michael Pittman est de retour, mais derrière, ils ont des rookies qui performent avec Alec Pierce et Jelani Woods qui met les deux touchdowns. Est-ce que les rookies vont vraiment, tu vois, être réguliers là-dessus? Je suis pas sûr. Jonathan Taylor, tu l'as dit, il est à 3,4 yards par course. Le jeu au sol est quand même largement ralenti. La ligne souffre. Matt Ryan souffre quand il est sous pression. Je veux pas faire le rabat-joie, tu vois, mais pour moi, ça me semble être un peu une victoire. Ils jouent les Titans, les Broncos et les Jaguars dans les semaines à venir.
Oui, non,
je suis même pas sûr de les mettre favoris dans ces, au moins des Titans Broncos, tu vois, je suis pas sûr de les mettre favoris, tu vois.
Et puis même bon, les Jaguars, ils perdent contre les Jaguars 24-0 la semaine dernière. Je suis pas sûr de les mettre favoris non plus, surtout
c'est,
que.
C'est vrai que leurs matchs de division sont ultra rapprochés. J'avais pas tilté, mais ils jouent les Jaguars en semaine 2, 3, 4, 5 et 6, et ils jouent les Titans en semaine 4 et 7.
Surtout que les Jaguars ils sont pas bons à prendre en ce moment. Teasing pour demain, messieurs dames.
Exactement. C'est là-dessus qu'on va finir. Très bien joué, Lucas. Tu nous renvoies vers l'émission de demain parce que oui, demain les Jaguars. Je peux l'annoncer, je peux le spoiler. Les Jaguars seront le premier match dont on va parler dans un débrief. Je pense que c'est une première depuis extrêmement longtemps. Ça a dû arriver dans l'histoire du podcast parce qu'ils ont fait une finale de conf quand même dans l'histoire du podcast. Donc on a parlé d'eux des fois en ouverture, mais ça fait une éternité qu'on n'a pas mis les Jaguars en une d'un podcast et ce sera top. On va parler de Trevor Lawrence, on va se demander si ça y est, Trevor Lawrence est là, va marcher sur tout le monde dans la ligue. Est-ce qu'il sera MVP cette année? Est-ce que les Jaguars vont au Super Bowl? Tu vois, j'abuse à peine.
On les avait fait la semaine dernière lors d'un débrief à 3 quand même. Ils avaient gagné déjà cet honneur-là. Là, je sais pas si c'est un step-up encore plus, mais c'est vrai que c'est beau.
On les avait mis dans le débrief.
Il me semble
qu'on avait inversé, je sais plus.
Il me semble qu'on les avait mis. Je suis pas sûr. À vérifier.
Je sais plus, ouais, comment on avait fait. Les Jaguars, en effet, qui avaient battu les Colts 24-0, ouais, la semaine dernière. C'est comme ça que se termine l'épisode 511 du podcast Jeune Actu. On se retrouve donc dès mercredi matin pour le débrief complet de toute la semaine. Ce sera avec Raphaël Masmejean et Grégory Richard avec les Jaguars en une. On l'a dit, mais plein d'autres choses, évidemment, hein, la domination des Eagles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait la liste tout à l'heure, les Ravens. Il y a plein de bonnes choses.
Ce grand match Broncos 49ers aussi.
Non, faut pas parler de ça aux gens, sinon ils vont pas venir. Mais on en parlera un petit peu, mais un peu moins que les Jaguars, parce que c'était un peu.
Et un énorme match entre les Giants et les Cowboys. Je sais pas si tu l'as vu, mais il est énorme, incroyable. Je prends un risque.
Tu prends un petit risque. Je suppose qu'il va être incroyable, qu'il a été incroyable, évidemment, ce match. Merci beaucoup, Lucas. On se dit à très bientôt, évidemment. Et bon voyage à toi. Tu vas à Londres, au fait.
Yes, indeed, comme disent nos amis anglophones.
J'aime bien de dire ça avec un ton comme si je te l'annonçais, tu sais. Ah ouais, dis-moi.
Ah bon,
je vais à Londres.
Oh, cool. Okay.
Bon, donc bon voyage à Londres. Profites-en bien. Gaffe-toi de Ben's Cookies. C'est toujours aussi bon, je suppose. Ah ouais, profites-en. Oh, je suis jaloux. T'as du beau temps aujourd'hui. Moi, je regarde par ma fenêtre, là, ça y est, c'est remis à pleuvoir des cordes. Et en plus, dimanche, tu vas manger du Ben's Cookies. Je suis d'une jalousie incroyable. Merci beaucoup, Lucas. Pour nous suivre, vous avez l'habitude, les réseaux sociaux, le Tipeee pour nous soutenir. Et on vous dit à demain pour le débrief complet de la semaine. Ciao, ciao. Et à très vite sur les antennes de Touchdown Actu.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.